Que de contraste entre les deux langues que nous venons d'entendre, c'est-à-dire l'espagnol et aussi ce nahuatl, ces quelques vers qui ont été prononcés dans cette langue qu'utilisaient les Aztèques. Que de contraste dans cette chanson, dans cet hymne à la gloire de Tonantzin, la divinité qui a donné le jour aux dieux principaux du panthéon mexica, Tonantzin, la mère des dieux, du dieu tribal des Aztèques, le grand Huitzilopochtli. Cette déesse qui a été adorée sur sa colline de Tepeyac, dans son sanctuaire qui était situé au nord du lac, c'est-à-dire au nord de ce lac où se trouvait Mexico Tenochtitlan, cette divinité qui, dès 1531, sera remplacée par une vierge chrétienne. Notre-Dame de Guadalupe, la future patronne des Amériques, que l'on fête encore chaque 12 décembre. Cette divinité précolombienne qui horrifia les premiers conquistadors qui assistèrent au sacrifice d'enfants qu'on lui offrait régulièrement. Dans cette chanson, dans cette dernière phrase prononcée en castillan, la chanteuse déclare que si un jour Tonantzin revenait, elle chanterait pour elle, elle chanterait avec elle. On peut aussi parler de ces contrastes qu'il y a eu entre cette dernière déclaration en espagnol et les vers qui sont chantés en nahuatl, ces vers qui ont une sonorité si particulière, ce nahuatl qui signifie, alors là je parle d'étymologie, qui signifie la langue pure, la langue franche, la langue officielle qui est devenue le symbole de l'hégémonie de Mexico Tenochtitlan sur cet immense territoire mésoaméricain. Étymologiquement toujours, mais alors là comme adjectif, nahuatl signifie également harmonieux, ce qui est beau, ce qui flatte l'oreille, ce qui possède, enfin quelque chose qui possède une belle sonorité. Ce mot peut donc être signifié de diverses manières, il a plusieurs significations qui tout expriment les qualités ou même je dirais les ambitions de cette langue nahuatl. Nous avons remarqué également que nous avions affaire à une langue très, très harmonieuse, qui est riche en voyelles claires, des sonorités à la fois limpides et même un peu accentuées. Ceux qui utilisaient le nahuatl, ceux qui l'utilisent encore aujourd'hui, n'oublions pas qu'ils sont encore plusieurs centaines de milliers à parler cet idiome sur les hauts plateaux mexicains, mais ceux qui parlent le nahuatl comparent cette langue au vol d'un oiseau, ou plutôt à un envol d'oiseau léger. C'est une belle image. Mais les Aztèques, à leur grande époque, étaient conscients de la valeur, de la qualité de leur langue. Au XVe siècle, c'est-à-dire juste à la veille de l'arrivée du conquérant espagnol, les Mexicains pensaient que toutes les autres langues parlées sur leur territoire étaient grossières, étaient frustres. Ils méprisaient tellement ces langues voisines, et celles de leurs ennemis en fin de compte, celles de leurs contemporains, qu'ils les traitaient systématiquement de chichimecs, c'est-à-dire des langues qui étaient engendrées par des chiens. C'est la traduction littérale de chichimèque, donc des langues barbares, des langues sauvages. Les Mexicains étaient très fiers, leur langue leur permettait d'avoir cette assurance culturelle, cette assurance de civilisation. Ils étaient conscients de parler une langue qui était porteuse de civilisation, j'insiste beaucoup, mais c'est une langue civilisatrice, une langue qui, bien sûr, servait à la communication, mais qui possédait en plus une puissance magique, une force irrésistible. Les Mexicains entendaient posséder un langage doué de toutes les possibilités de l'abstraction, qui était doué des possibilités de la création aussi. Bon, parce qu'on était dit tout d'abord, le mécanisme de cette langue, sa sémantique, je crois que pour mieux comprendre comment était structuré ce Nahuatl, nous allons prendre quelques exemples, des exemples que j'avoue sont assez révélateurs et qu'on connaît déjà un peu. On va prendre par exemple les dieux aztèques. Le premier qui vient à l'esprit, c'est Quetzalcoatl. Ce dieu, ce roi des Toltecs, et son nom peut se traduire de différentes façons. D'abord, serpent Quetzal, ou encore serpent à plumes précieuses, ou encore serpent à plumes vertes de Quetzal. Donc ça, c'est son nom de baptême. Le Quetzal, c'est cet oiseau des forêts tropicales que l'on retrouve trop rarement, malheureusement aujourd'hui. Il a été très très chassé, cet oiseau que l'on retrouvait uniquement sur les terres chaudes du sud du Mexique, ou dans cette province du Guatemala, l'Alta Verapaz, dans les jungles du Petén aussi. Enfin, c'est un oiseau qui a un plumage vert, qui a également une petite gorge rouge, mais il arbore surtout deux superbes pennes à sa queue, de longues plumes brillantes qui peuvent atteindre 60 cm de longueur. Et ces plumes ont toujours été considérées comme une marque de grand luxe, mais aussi de bon goût, plus exactement de richesse, de pouvoir. Il signifiait que l'on était puissant, et surtout, on se rappelle toutes ces grandes coiffes que l'on a vues au musée ou ailleurs, ces coiffes qui sont systématiquement ornées par ces plumes de Quetzal. Je crois qu'il est aussi bon de se rappeler que le serpent à plumes représente, pour les Toltecs, pour les Aztèques, la civilisation. Il représente les arts, mais aussi l'abondance. Il symbolise la culture qui est arrivée à son plus haut niveau. Donc ces symboles, ces images significatives sont réunies sous son nom, par son nom. Et je crois qu'il faut aussi se rappeler la légende de la mythologie qui entoure le serpent à plumes précieuses. Quetzalcoatl était considéré comme un souverain de Tula, mais il avait abandonné sa riche capitale. Il était parti en exil, il avait fini par aborder les côtes du golfe du Mexique, et là il avait fait construire un radeau. Bon, d'autres chroniqueurs parlent plutôt d'un bûcher. Et c'est là, face à l'océan, qu'il avait décidé de se sacrifier. Il se serait en fait consumé avant de se voir transformé en l'étoile du matin, Vénus, métamorphosé, ressurgit sous les traits de cette planète, donc la planète de l'Est. Mais Quetzalcoatl, il évoque, en tout cas pour un précolombien, systématiquement ce soleil qui se lève justement à l'Est. Ce soleil dont la course rappelle la mort, mais surtout la renaissance de toute chose, la rédemption. Alors par ce nom, par ce seul nom, par ce mot unique, nous avons expliqué quelques-uns des mystères qui entourent cette divinité. Il nous a fallu plusieurs phrases pour éclairer cette situation. Mais dans les mots Quetzal et Coatl, dans les deux mots, dits ensemble, mis ensemble, associés, tout était déjà compris, tout était déjà explicité dans l'esprit du précolombien. On peut peut-être prendre un autre exemple. Tout à l'heure, nous avons parlé de Tonantzin et de son fils Huitzilopochtli, cette divinité tribale des Mexicas. Bien, Huitzilopochtli se traduit par colibri de la gauche. Oui, l'oiseau mouche se dit Huitzilin en langue nahuatl, et de la gauche se dit Opochtli. Donc, Huitzilin Opochtli, Huitzilopochtli. Bon, cet ensemble sémantique a encore eu une autre signification, le guerrier ressuscité du Sud. Alors, on peut se demander quel rapport il y a entre le colibri de la gauche et le guerrier ressuscité du Sud. Eh bien, on pense qu'il n'y a rien à première vue. Pourtant, si. Lorsqu'on sait que pour les précolombiens, la gauche de leur univers se situait au Sud, et que les guerriers morts au combat, morts sur le champ de bataille, renaissaient dans le corps d'un oiseau-mouche, dans le corps léger d'un colibri, alors là, tout s'éclaire. La relation devient limpide. Huitzilopochtli est donc bien à la fois le guerrier ressuscité du Sud et le colibri de la gauche. Je crois que par ces deux exemples, on voit à quel point cette langue nahuatl utilise des groupes d'images, utilise des signifiés qui restent étroitement liés par un sens rituel, c'est le cas pour ces deux divinités en tout cas, liés par un sens traditionnel. Ces groupes d'images, en fait, s'utilisent comme nous pourrions le faire avec des phrases articulées de structure logique. Je crois que c'est Jacques Soustelle qui a su le mieux décrire ce système, ce mode de structure mentale, quand il dit que lorsque l'on pénètre dans ce monde de la pensée indigène, ce monde que l'indigène construisait, on croit entrer dans un palais dont les murs seraient faits de miroirs. Ou alors il déclare encore, d'une façon peut-être plus poétique, que ce monde est comme une forêt aux innombrables échos où les parfums, les couleurs, les sons se répondent. Nous avons parlé jusqu'à maintenant du langage, mais je crois qu'il faut aussi s'intéresser un peu à l'écriture, cette écriture hiéroglyphique. Et c'est sûr que cette écriture, elle ne pouvait pas enregistrer intégralement le langage parlé, ça il faut s'en rappeler. Elle permettait uniquement de garder un catalogue de points de repère, une sorte de résumé des événements, un résumé des idées, et qu'en fait, l'écriture jouait le rôle d'un simple aide-mémoire. L'essentiel de leur littérature, de cette littérature précolombienne, elle était faite de poèmes, de récits historiques, des prières, il y avait des exercices de rhétorique. Eh bien, tout ceci était appris par cœur. L'écriture ne fournissait, je le rappelle, qu'un memento. Et cette étude, une étude mnémotechnique, c'était le travail principal qu'avaient les jeunes nobles qui étaient réunis dans le Calmecac, ce fameux collège d'enseignement supérieur qui se trouvait au centre même de Mexico, Tenochtitlan. Apprendre les textes par cœur, c'était leur activité fondamentale. Alors, quand on parle d'écriture, il faut bien sûr parler aussi un peu des livres, en tout cas des supports de cette écriture. Il y en avait beaucoup, on a gravé sur la pierre, dans le bois, le métal, toutes sortes de matériaux divers. Mais ce qui a choqué d'abord les premiers Espagnols, et je pense surtout à Bernal Díaz del Castillo, c'est de voir qu'il le dit lui-même, qu'ils avaient trouvé des maisons, et qu'à l'intérieur de ces maisons il y avait des idoles, c'est là où ils faisaient leurs sacrifices, mais surtout qu'ils avaient remarqué qu'ils possédaient également de nombreux livres en papier qui étaient pliés à la façon de draps de Castille. Et oui, ils étaient rentrés dans les bibliothèques aztèques. Alors, les premiers enquêteurs, à part Bernal Díaz del Castillo, ensuite ce sont surtout les franciscains qui vont s'intéresser à la littérature précolombienne. Ils ont remarqué qu'il y avait 5 genres de littérature, mais que tout leur contenu était évidemment religieux, rituel pratiquement. Donc, c'est ce qui va attirer l'attention de ces premiers Espagnols qui étaient là pour détruire ces bibliothèques. Alors, ils avaient vu qu'on s'intéressait aussi aux annales, à la généalogie, qu'il y avait des recueils de prières, de poèmes. Et ils savaient comment était fait le papier, c'est-à-dire qu'ils ont étudié qui écrivait. Il y avait naturellement le tlacuilo, qui était le peintre, le scribe, qui détenait l'encre noire et rouge, cette encre sacrée, ces encres sacrées, qui avaient le pouvoir de rendre durable la connaissance, de la fixer par l'écrit. Le papier, bon, c'était surtout la macle, ces longues bandes d'écorce qui étaient découpées sur l'arbre à papier, une sorte de figuier sauvage. Ensuite, on faisait subir un traitement qui était destiné à rendre l'écorce lisse au moyen d'une pierre, une pierre à polir. Et puis, ce papier, eh bien, il en venait de partout. C'est-à-dire que les Aztèques ont été terriblement paperassiers. Ils avaient besoin d'énormément de papier. Ils lui faisaient payer des tributs au peuple qu'ils avaient soumis. Et ils leur demandaient toujours d'envoyer de ces feuilles d'amatl. Cet amatl, on le trouve encore aujourd'hui, comme simple souvenir, ce sont ces feuilles brunes qui sont toujours faites de cette même écorce de figuier sauvage. Bon, ils utilisaient aussi les peaux de bêtes, c'est vrai, ils les recouvraient ensuite de chaux afin de pouvoir dessiner ou écrire directement dessus. Malheureusement, ces livres nous sont parvenus en très petit nombre, c'est normal, puisque cette pénurie est tellement évidente, puisqu'il y a eu d'abord les événements de la conquête, bien sûr, mais surtout cette destruction qui a eu lieu, par exemple, à l'entrée des Tlaxcaltèques. Les Espagnols ne sont pas toujours responsables de toutes ces destructions. Ces Tlaxcaltèques, qui étaient les alliés de Cortés, en 1520, vont incendier les bibliothèques et les archives qui étaient préservées dans les palais princiers, les principaux palais de Mexico, Tenochtitlan. Le siège de Mexico en 1521, ce sera la destruction complète de la ville, donc la perte de quantité d'écrits. Et puis ensuite, il y a eu les premières années d'évangélisation. Ces missionnaires vont croire que toutes ces œuvres écrites sont diaboliques, sont en tout cas étranges. Ils vont les suspecter rapidement et ils vont demander qu'on les, ils vont ordonner qu'on les brûle, qu'on les détruise. Ça, ça va justement prendre cours à partir de 1525. Ils n'ont absolument pas cherché à distinguer les thèmes profanes des sujets magiques ou des sujets religieux. Tout va être détruit pratiquement, sauf les quelques ouvrages que l'on aura déjà envoyés en Europe afin de les offrir à Charles Quint ou aux princes de l'époque. Alors, pour être exact, il faut dire aussi que la destruction des livres et des codex n'a pas été le fait des Espagnols ou de ces Tlaxcaltèques seulement. Non, les Indiens eux-mêmes l'ont fait. C'est-à-dire les propres Aztèques, avant les Espagnols, avaient déjà détruit de nombreuses bibliothèques. Je pense surtout au roi Itzcoatl, qui en 1427 avait demandé à son grand conseiller de faire brûler tous les livres existants afin d'effacer définitivement les traditions historiques et religieuses antérieures. Donc, par une opération comme celle-ci, il cherchait simplement à imposer au Mexique une nouvelle vision historique, une nouvelle vision mystique des Aztèques. Et en fait, il cherchait à forger, à donner à son peuple une doctrine et une mission nouvelle. On a déjà eu des exemples similaires en terre précolombienne. Je pense par exemple aux Incas, au Pérou, qui à chaque nouveau gouvernement, à chaque nouvel Inca, à chaque nouvel empereur, demandait la destruction de tout ce qui existait auparavant. Et surtout alors, à la mort d'un empereur, on ne conservait que la partie noble, la partie la plus flatteuse de l'histoire. Tout le reste était détruit ou oublié. Alors maintenant qu'on connaît un peu mieux ces supports, on va pouvoir découvrir petit à petit ce qu'est la véritable littérature précolombienne et voir aussi comment on a réussi à récupérer ces littératures préhispaniques. Alors ça a commencé effectivement au XVIe siècle, bien sûr, au lendemain de la conquête. Il y a eu quand même quelques missionnaires qui ont été de véritables ethnographes. Ces premiers chroniqueurs vont être aidés également par des scribes indiens. Ces Amérindiens qui vont être très rapidement convertis à l'alphabet latin et qui vont pouvoir traduire ces anciens ouvrages. Alors, la publication, la prise en considération de ces littératures ne va intervenir que beaucoup plus tard. C'est à peu près à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, une fois que les indépendances de l'Amérique latine seront terminées, qu'elles seront acquises. Alors là, on va commencer à tenter la découverte de ces anciennes littératures. Et puis c'est surtout à notre époque, depuis une quarantaine d'années, qu'un effort scientifique, un effort rigoureux va être consenti pour commencer à les faire paraître au grand jour. Et c'est justement grâce à un homme comme Georges Baudot que je peux me référer à son ouvrage qui est paru sur les lettres précolombiennes. C'est le premier ouvrage en français qui soit paru d'une manière assez complète sur cette littérature aztèque, les littératures mayas et même du Pérou. On vient d'entendre des chants, cette musique, cette danse interprétée par ces Indiens qui vivent encore sur les hauts plateaux. Cette danse, cette musique, cette poésie, c'était pour la culture nahuatl trois notions tout à fait inséparables. On ne concevait pas du tout l'expression poétique si ce n'était comme le résultat d'une participation bien réglée de ces trois éléments. Ça, je crois que c'est important. Et pour présenter la poésie nahuatl, il faut d'abord penser au rythme, il faut penser au son dont elle était toujours accompagnée. Le nom qui désigne même le poème, le mot cuicatl, signifie aussi chant, il signifie musique, il signifie chanson. Donc la poétique était complètement confondue avec l'art musical. Le poète, c'était en même temps le chanteur, celui qu'on appelait le cuicani. Alors quand on étudie un peu cette écriture, on voit aussi que systématiquement on avait affaire à un symbole particulier qui signifiait la parole, c'est-à-dire une sorte de volute, une volute qui sortait de la bouche, on le voit sur les sculptures, on le voit sur les hiéroglyphes, cette volute décorée de fleurs, une parole fleurie, une parole poétique, mais aussi le chant, la chanson qui sortait ainsi de la bouche du poète. Donc l'accompagnement qui va être obligatoire, il va être fourni par différents instruments de musique. Elle enveloppait pratiquement cette mélodie, elle enveloppait la déclaration du poème, mais malheureusement, cette musique, elle est restée pratiquement inconnue. Parce que, d'abord, on sait pratiquement rien, parce qu'elle a été perdue, parce qu'il n'y avait pas de notation, surtout. Et la seule chose dont qu'on puisse se rappeler, c'est qu'il disposait quand même de moyens assez variés. Il y a eu des codex pour ça. On voit aussi par les chroniqueurs qui faisaient tous état de ces instruments. Il y avait d'abord les conques, les flûtes, les trompettes. Il parle aussi d'énormément d'instruments de percussion, les clochettes de coquillages qui pouvaient attacher à leurs chevilles, des crécelles, des tambours, et puis surtout ce tambourin vertical, le wewetl, et puis l'autre allongé, le teponazli, qui avait une gamme beaucoup plus basse, une tierce une tierce mineure, qui a joué un très grand rôle. Tout ça, ça procurait une sorte de cadre, de soutien du rythme poétique. Et puis on voit aussi qu'il y a eu des manuscrits avec des indications qui se rapportaient au rythme même du teponazli, donc ce tambour. Donc on savait à quel moment on devait jouer du tambour. On sait aussi qu'au hasard de ces textes poétiques, il y avait des interjections, qu'on devait lancer certaines syllabes qui étaient pour nous dénuées de sens, mais qui sont explicables uniquement par cette modulation du chant. On trouve souvent des « a », des « ya », des « aïa », des « ouïa », des « haoué », des « haouïa », etc. C'est assez comique, effectivement. Mais tout ceci était formé par des voyelles qui étaient déformables, donc ces particules qui n'ont aucune signification dans la langue nahuatl. Elles devaient simplement permettre de souligner une intonation, d'exprimer la ligne mélodique sur laquelle étaient bâtis les vers de l'artiste. Et parfois même, la musique semble avoir... Enfin, on avait l'impression qu'elle l'emportait. Et ce genre de particules envahissait alors le poème complètement pour constituer une sorte d'entité autonome. C'est ainsi qu'on peut, par exemple, retrouver le passage de ce qu'on a appelé le chant des oiseaux de Totoki Watsin. « Je suis en train de jouer du tambour. Réjouissez-vous, amis, et dites « Tototototo, tikititi, tikititi ». Que la terre joyeuse se réjouisse. Tokititi toti, toti kititi toti, tototototo, tikititi tikititi. Alors là, c'est encore plus comique que tout à l'heure, mais on a même pu suggérer par des poèmes comme celui-ci une sorte de correspondance entre toutes ces syllabes et puis éventuellement les notes de notre gamme. Alors on pourrait par exemple partir du do, hein, l'octave, en mettant le ti. Le ki, ce serait le la, le to, ce serait le sol, le ko, ce serait le mi. Ce qui compte, en fait, c'est de savoir qu'à partir du do initial, qui était probablement consigné, on pouvait ainsi utiliser toute la gamme pentatonique, et c'était la base même de cette célébration poétique. Donc il y avait des rythmes et surtout ce système de gamme et d'intonation qui devait donner toute la particularité à l'art poétique. Et alors, ce qui est curieux, c'est que dans certains chants d'aujourd'hui, on peut encore entendre ces interjections. On va les utiliser, peut-être, encore une fois, afin de lire le premier poème d'introduction à propos de ces bibliothèques, à propos de Mexico Tenochtitlan, la ville des princes, cette ville du savoir et de la poésie. Là où il y a des flèches colorées, là où il y a des boucliers peints, là est Tenochtitlan. C'est là que durent toujours les fleurs précieuses, que les fleurs du cœur ouvrent leurs corolles. Ce sont les fleurs de l'auteur de la vie que butine tout le pays, ce sont les princes. Comme une merveille demeurent à Coloacan les peintures de turquoise et les maisons des livres. C'est là que durent toujours les fleurs précieuses, que les fleurs du cœur ouvrent leurs corolles. Ce sont les fleurs de l'auteur de la vie, que butine tout le pays, ce sont les princes. Le véritable sommet de l'art poétique aztèque, de cette poésie précolombienne, je crois qu'il est représenté par le Teocuicatl. Alors qu'est-ce que c'est que le Teocuicatl ? Eh bien, ce sont des hymnes. D'abord, des hymnes, on pourrait traduire le mot Cuicatl, chant, poème, Teo, divin, le dieu, donc un chant divin, des chants religieux. des hymnes sacrés qui étaient transmis uniquement par des traditions extrêmement anciennes et qui faisaient partie de la liturgie aztèque. Donc, d'un rituel extrêmement complexe. Malheureusement, leur sens est resté presque toujours assez obscur pour nous. On va y retrouver des allusions ésotériques, il y a aussi des métaphores avec des significations culturelles qui nous échappent complètement. Mais c'est vrai qu'à déjà l'époque aztèque, le peuple ne comprenait pas du tout cette poésie, ces hymnes sacrés. Or, il n'y avait que les prêtres, il n'y avait que l'élite qui pouvait saisir ces significations et ces métaphores. Puis même les premiers Espagnols, ceux qui ont étudié le mieux la littérature, je pense à Sahagún, Fray Bernardino de Sahagún, qui lui a fondé le premier collège indigène dans lequel il a fait pénétrer toute la noblesse aztèque qui restait encore vivante quelques années après la conquête. Ce collège dont on retrouve encore l'église qui aujourd'hui se situe sur la place des Trois Cultures, en plein Tlatelolco. Eh bien, Sahagún, qui lui avait lu ces hymnes sacrés, nous en a rapporté énormément en les écrivant, les faisant écrire par ces scribes amérindiens qui, eux, les traduisaient en caractère latin. Eh bien, cette obscurité, cet inconnu du poème, cette mystique un peu curieuse, l'a terriblement intrigué, l'a surtout agacé. Et il pensait, lui, tout simplement, que les Aztèques, ils voyaient l'effet d'une volonté de dissimulation, quelque chose de tout à fait diabolique. Donc le meilleur connaisseur de l'époque ne comprenait pas ces poèmes et les trouvait au contraire tout à fait maléfiques. Alors le premier auquel on va s'intéresser, c'est l'hymne à Huitzilopochtli. C'est ce fils de Tonantzin dont on a déjà parlé, Huitzilopochtli, qui en somme par cet hymne va être célébré. On va célébrer sa trajectoire. Cette trajectoire qui est une sorte de victoire quotidienne sur les nuages, sur le froid, sur le soleil nocturne aussi, celui qu'on appelle Tezcatlipoca, cette divinité au pied unique avec son miroir fumant d'obsidienne, ce dieu qui lui vit uniquement dans l'inframonde, qui s'occupe du soleil la nuit afin de le repousser jusqu'au matin, ce dieu de l'obscurité, ce dieu noir, ce dieu ennemi de Huitzilopochtli qui lui est le prince de la journée, le prince de midi, cet oiseau-mouche de la gauche, le guerrier du sud, ce soleil de midi qui est en route pour son combat cosmique, qui est aussi le protecteur des guerriers, ne l'oublions pas, ces guerriers qui, ici-bas, vont recréer, lors des grandes batailles, ce duel divin, ce duel primaire, enfin cette première manifestation de la force solaire.
Huitzilopochtli, le jeune guerrier, celui qui œuvre là-haut, suit son chemin. Je n'ai pas revêtu en vain le manteau de plumes jaunes, car je suis celui qui a fait lever le soleil. L'épouvantable, celui qui demeure au pays des nuages, ton pied est unique. Habitant du froid pays des ailes, ta main s'est ouverte. Au mur du pays des ardeurs, on a mis des plumes, il se dissout. Le cri de guerre a été poussé, mon dieu se nomme celui qui défend l'homme. Oh, le voilà qui poursuit tout revêtu de papier, celui qui demeure au pays des ardeurs. Dans la poussière, il se retourne. Ceux dans Mantla sont nos ennemis. Viens te joindre à moi. Dans les combats se forge la guerre. Viens te joindre à moi. Ceux de Pipantlan sont nos ennemis. Viens te joindre à moi. Dans les combats se forge la guerre. Viens te joindre à moi.
Le deuxième hymne que nous allons étudier maintenant, il est consacré à Tlaloc. C'est le fameux dieu de la pluie. C'est un texte qui est originaire d'Acolhuacan, qui était donc connu, ce texte est connu déjà dans la Nahuac depuis le 14-15e siècle peut-être. La Nahuac, c'est cette grande vallée qui fait pratiquement 80 km de diamètre, avec l'Itzosihuatl, le Popocatépetl et au milieu la capitale aztèque. Donc, ce texte est bien connu dans tout l'Empire, et à travers cet hommage qui est rendu à ce dieu de la végétation, à ce dieu de la pluie, on va distinguer différentes phases d'une espèce de démarche qu'on pourrait appeler démarche liturgique. On va d'abord annoncer la cérémonie, il y aura ensuite les incantations du prêtre, l'intervention du dieu, c'est-à-dire de Tlaloc lui-même, et enfin, les paroles d'offrande du sacrifié qui s'apprête déjà à gagner le pays du mystère, ce fameux Tlalocan, le paradis de Tlaloc. Alors pour obtenir du prince sorcier, celui qu'on appelle le prince sorcier, c'est-à-dire Tlaloc, le don de cette pluie bienfaisante, il faudra payer. Il faudra payer avec le sang, il faudra payer avec les larmes de tous ces enfants qui sont consacrés et de ces enfants qui iront ensuite pendant 4 ans vivre dans ce paradis de Tlalocan.
Hymne à Tlaloc. À Mexico, on demande un prêt aux dieux. Là où sont les drapeaux en papier et aux quatre horizons, les hommes se tiennent debout. Voici enfin le temps de ses pleurs. Aïe, j'ai été créé de mon Dieu, je porte à sa cour divine les épis sanglants, un faisceau de fête. Aïe, mon chef, prince, sorcier, même si en vérité tu es à l'origine de notre nourriture, même si tu es la première personne, on ne te procure que honte. Aïe, mais si quelqu'un me fait honte, c'est parce qu'il ne me connaissait guère, mais vous êtes mes pères, mes prêtres, au crâne rasé, tigre, serpent. Aïe, de Tlalocan, maison de turquoise, il sort d'habitude sans être vu à Catonal. Aïe, va donc partout, aïe, répands-toi, à Payaotlan, près du brouillard semblable à la fumée, avec des sonailles de brume, on l'emporte au Tlalocan. Aïe, mon frère Tosiquiquechi, je vais partir pour toujours, voici le temps de ses pleurs. Aïe, fais-moi partir pour le pays du mystère, sur son ordre. Mais je lui ai dit au prince des prodiges, je vais partir pour toujours, voici le temps de ses pleurs. Aïe, dans 4 ans, parmi nous, on sera soulevé par le vent sans que personne ne se rende compte. Innombrable, là où sont ceux qui n'ont plus de corps, la maison en plume de Quetzal a lieu le dépassement. Tel est le pouvoir du résurrecteur. Aïe, va donc partout, aïe, répands-toi à Payaotlan avec des sonailles de brume, on l'emporte au Tlalocan.
Sur le premier versant de la cassette, je vous ai lu un hymne consacré à Tlaloc, ce dieu de la pluie. Cet hymne se trouve reproduit à la page 258 de votre colloque. Et bien maintenant, nous allons tourner la page et passer à la 259 afin d'étudier deux autres hymnes. En particulier, celui consacré à Xochipilli. Xochipilli, c'est un dieu très curieux que je vous ai reproduit sur la fourre de votre cassette consacrée à la littérature nahuatl. Jeune dieu de la fécondité, de la joie, de l'amour, c'est difficile de se représenter de tels attributs pour cette statue qui a son regard tourné vers le ciel, un peu triste, un peu dur, un peu féroce même, et pourtant c'est bien le dieu de la joie, le dieu de l'amour, ce prince des fleurs, prince du printemps, de l'été, de la danse, prince aussi de ceux qui aiment le sport, de ceux qui aiment les jeux, un dieu très joyeux au contraire, très complet aussi et qui s'occupe également de la poésie, des chants, enfin de tout ce qui est joie et amour. Ce prince des fleurs est presque toujours célébré en compagnie de Tlaloc, mais surtout de Centeotl. Centeotl, c'est le dieu du maïs. Dans notre poème, enfin dans le poème que vous allez lire vous-même, on le voit ici à l'arrivée, enfin à son arrivée sur le jeu de paumes. Xochipilli est symbolisé par le faisan aux plumes brillantes, et puis on trouve aussi Centeotl, qui sont annoncés ensemble sur ce terrain sacré du jeu de pelote. On comprend aussi en lisant ce poème qu'on a affaire à un jeu solaire où vont s'affronter le soleil et la terre, ce jeu qui procure la pluie fécondante ordonnée par Tlaloc, source de toute subsistance pour l'homme. Alors, je vous laisse lire, mettre un instant votre cassettophone sur pause, et lire ce poème. L'hymne suivant est consacré à Cihuacuatl. c'est la déesse mère, la déesse de la terre. Sihuacuatl, c'est aussi un autre aspect de Teteonian. Teteonian, c'est la mère des dieux, celle qui a ses formes multiples. Eh bien, l'hymne que vous allez lire, qui se trouve toujours à la page 259, est en fait ici célébré sous une double conformation agraire et guerrière. C'est-à-dire que cette divinité de la terre est à la fois consacrée à l'agriculture et en même temps à la guerre. Elle est ici la mère de la germination, donc elle est à l'origine de l'existence, mais elle est aussi la collaboratrice du soleil qui mène cette guerre cosmique dont nous avons déjà parlé. Dans ce poème, notre divinité, Sihuacuatl, et symbolise carrément le soleil, mais sous la forme de l'aigle. L'aigle, c'est une représentation qu'on retrouve souvent pour les guerriers, tout comme le tigre. Ce tigre et cet aigle que l'on retrouve à la page 258. Eh bien là, notre divinité est représentée par l'aigle féminin. Elle vit son voyage céleste pour partager avec le soleil ce principe dualiste suprême. Et puis dans le poème, on voit aussi qu'elle voyage à l'aide du bâton à sonail. Ce bâton à sonail qui représente la koa, c'est-à-dire ce bâton fouisseur que l'on utilise au moment des semailles, ce sexe mâle qui pénètre la terre et la féconde. Et c'est ainsi que justement elle va pouvoir donner la vie, elle va faire surgir son fils, le dieu du maïs. Alors, je vous laisse à nouveau lire ce poème que vous avez au bas de la page 259 et nous allons passer ensuite à un hymne qui lui est consacré à la divinité Xipetotec. Xipetotec, c'est celui qu'on appelle notre seigneur l'écorché. On l'appelle aussi le buveur nocturne. C'est vraiment la divinité fécondante par excellence. Divinité qui est à l'origine de la pluie, la première pluie printanière. Cette pluie qui va renouveler la nature. C'est aussi une divinité phallique. Il y avait un culte qui était rendu lors des grandes fêtes qu'on appelait les fêtes de l'écorchement des hommes. Ces fêtes qui symbolisaient magiquement l'union sexuelle du soleil et de la terre, donc la source de toute vie. Alors, comment se passaient ces grandes fêtes de l'écorchement des hommes? C'est vrai, quand on prend notre colloque à la page 203, on voit le portrait du dieu Xipetotec. On remarque que le personnage, ça peut être le prince, ça peut être un prêtre, ça peut être le dieu lui-même, eh bien, ce personnage était peint en rouge. Et par-dessus, au point de vue vêtement, il devait porter la peau de l'écorché, qui était ensuite attachée dans le dos. Il portait aussi cette peau sur le visage, on ne voyait que les yeux du personnage sous cette peau. Et puis, on remarque même, d'après notre gravure, que les mains de l'écorché étaient laissées entières, puisqu'elles pendent sous les poignets du prêtre. Alors, cette fête de l'écorchement des hommes était assez complexe. Les victimes étaient d'abord percées de flèches et leur sang était répandu sur la terre afin que le buveur nocturne puisse prendre ce sang, afin que la terre, nourrie ainsi du sang des hommes, puisse revivre, puisse renaître. Ensuite, les victimes étaient écorchées et les prêtres revêtaient leur peau, comme nous l'avons décrit tout à l'heure, cette peau qui était alors teinte en jaune. Alors, le personnage est peint en rouge, il porte une peau jaune, et cette peau jaune, c'est le vêtement d'or, c'est le nouveau vêtement, c'est la nouvelle végétation. Pourquoi d'or? Eh bien parce qu'effectivement, c'est la couleur aussi de la vie, c'est la couleur solaire par excellence. Alors ce rite symbolisait, il recréait un phénomène tout à fait essentiel, c'est-à-dire la terre inerte de la saison sèche, qui grâce à l'eau, plus exactement les émeraudes d'eau qui tombaient du ciel au début de cette saison des pluies, cette eau qui va faire renaître la végétation, avec elle le maïs, le jeune maïs dont l'homme attend tout. Alors nous allons maintenant découvrir cet hymne à Xipetotec et avec toutes ces allusions à propos de cette renaissance, de cette eau, de cette vie, de cette terre qui va pouvoir renaître. La nuit s'enivre ici. Pourquoi te fais-tu prier? Sacrifie-toi.
Ton vêtement d'or revêt ton vêtement d'or. Mon Dieu porte des émeraudes d'eau, elles descendent au moyen du canal. Le cyprès aux plumes de Quetzal, le serpent de turquoise aux plumes de Quetzal m'ont offert la vie. J'aimerais me réjouir, j'aimerais ne pas périr. Je suis le jeune maïs. Mon cœur est une émeraude, je verrai l'or de la pluie. Mon cœur va se rafraîchir. L'homme qui part au combat pour la première fois prend des forces, le chef de guerre est né. Mon Dieu, le maïs mûr, visage haut, s'inquiète sans raison. Je suis le jeune maïs. Du haut de tes montagnes, ton Dieu vient te voir. Mon cœur va se rafraîchir. L'homme qui part au combat pour la première fois prend des forces, le chef de guerre est né.
Quelle était la conscience historique que pouvait avoir un peuple comme ce peuple aztèque? La seule chose qui répond à cette question, ce sont les Melahuacuicatl. Alors qu'est-ce que un Melahuacuicatl? C'est une sorte de saga. C'est un poème historique. Nous avons maintenant travaillé les dieux. Intéressons-nous peut-être un peu plus au mythe, à la mythologie et à l'histoire aztèque. Alors, ce Melahuacuicatl, en fait, c'est une sorte de saga, c'est une ode nationale. On va retrouver cette poésie historique sous forme de poème avec des vers, mais aussi éventuellement en prose. Donc on va en faire une sorte de compilation de toutes les annales, de tout ce qui s'est passé. Alors le premier thème qui nous intéressera, c'est celui qui est consacré aux quatre soleils. Un thème qui a été de nombreuses fois traité et qui, bien sûr, est immédiatement identifiable au calendrier solaire, cette pièce majeure de la salle Mexica où l'on retrouve ce mythe des quatre soleils qui ont précédé le nôtre. C'est vrai qu'avant les hommes, il y avait quatre soleils, quatre airs, qui avaient ainsi permis de diviser le temps. Toutes ces airs avaient disparu dans des catastrophes terribles et le cinquième soleil, celui des hommes, le nôtre, eh bien, les Aztèques en avaient la charge. Pour reprendre un peu plus rapidement, avant de lire cette saga, ce poème, je crois qu'on pourrait reprendre un peu cette légende des soleils. Car le premier soleil, celui qu'on appelait soleil de jaguar, nommé Nahui Ocelotl, c'est-à-dire quatre jaguars, et c'était le tout premier, bien sûr, il avait permis au monde d'être peuplé de géants. Malheureusement, le ciel s'était effondré, le soleil avait été enseveli, il avait été ainsi immobilisé, et naturellement, il faisait nuit. Alors, ces ténèbres vont permettre au jaguar de sortir. Le jaguar, symbole de la terre. Nous sommes dans le monde correspondant à cet élément, la terre. Ces jaguars vont pouvoir dévorer les hommes pendant cette obscurité, lors de cette obscurité. Ensuite, il y aura le soleil de vent, Nahuihecatl. C'est celui qui a fini avec des ouragans terribles qui vont balayer toute vie et qui vont métamorphoser les hommes en singes. Ces singes qu'on retrouve encore dans les arbres. Ensuite, il y a le troisième soleil, celui qu'on appelle Nahuikiwaitl, c'est-à-dire quatre pluies. Alors, attention, ce n'est pas la pluie au sens où nous l'entendons, c'est la pluie de feu. Détruit par cette pluie tombée du ciel, cette pluie de feu, donc d'origine volcanique, qui va embraser la terre, l'humanité va être changée en dindon. Ensuite, il y a le quatrième soleil, Nahuiatl, quatre eaux, ça c'est la traduction. Alors là, ce sera un déluge de 52 ans qui va s'abattre sur la terre. Toutes les montagnes vont être submergées, tout va être détruit. Et les gens seront transformés en poissons. Mais il reste un couple qui a été sauvé par le dieu Titlacuaun, donc aussi Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, c'est un de ses attributs, qui va leur permettre de monter sur un canot qu'il avait taillé dans un tronc d'Ahuehuetl. L'Ahuehuetl, on en reparlera beaucoup, puisque c'est un arbre qu'on retrouve encore d'une manière sacralisée aujourd'hui au bord des rivières, dans tout le Mexique, et qui permet justement de pomper l'eau. Et ce dieu, Tezcatlipoca, va donner à ce couple uniquement un épi de maïs par personne. Alors, bien sûr, ils avaient faim, ils ont voulu manger du poisson, ils ont aussi voulu faire du feu, mais tout était encore dans les ténèbres.
Alors là, c'est la colère des dieux. Tezcatlipoca va couper la tête à ces deux personnes, et il va la recoller sur leur postérieur, et il va ainsi les transformer en chiens. Ça, c'est la fin du quatrième monde. Mais l'actuelle humanité, eh bien, elle est née de ces os précieux, de ces morts, qui vont être remontés des enfers par Quetzalcoatl lui-même, ou plus exactement par son avatar, parce que là, on appelle, lorsque c'est ce Quetzalcoatl qui descend sous terre, on l'appelle Xolotl, c'est-à-dire le dieu à tête de chien. Et le nom de ce cinquième soleil, c'est Nawi-Oyin, c'est-à-dire quatre mouvements. Monde qui est aussi promis à la destruction, puisque on lit dans certaines annales, les anciens prétendent qu'il y aura des tremblements de terre, une famine générale, et qu'ainsi tout le monde va périr. Donc c'est un texte intéressant, mais je crois que ces quatre premiers soleils figurent en effet... Et on a remarqué l'idée des éléments. Il y a d'abord l'eau, on a vu le feu, il y a l'air et il y a la terre. Donc on pourrait découvrir aussi que ce soleil de jaguar, ça je l'ai dit, à l'époque olmèque, c'était vraiment le dieu associé à la terre. Donc on a le premier élément et puis les autres, on les a suivis normalement, c'est-à-dire le feu par l'appui de feu, l'air pour le vent et enfin l'eau également. Alors ces éléments promettent naturellement le monde à la destruction. Mais dans leur existence séparée, ils ont déjà été détruits à tour de rôle. Comment, alors, comprendre que ce cinquième soleil qui paraît, qui est celui dans lequel on vit, ne va pas justement être détruit comme les quatre précédents? Le cinquième soleil est condamné dès son origine. Depuis sa création, il porte déjà en lui les principes de sa désagrégation. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est une chose qui peut nous faire comprendre aussi que ce devenir catastrophique est inscrit dans le nom même de chaque soleil. Parce que dans le calendrier précolombien, dans le monde nahuatl, on porte comme nom religieux sa date de naissance exprimée dans le calendrier rituel. Vous savez, ce calendrier qui est fait de 260 jours, qui est imposé ainsi, ce nom qui est imposé cérémoniellement par le prêtre chargé de la lecture des destins. Et lorsqu'un texte nous dit que le premier soleil avait pour nom Nawi Ocelotl, ça signifiait qu'il était né un jour Nawi Ocelotl, c'est-à-dire un jour quatre jaguars. Or, les textes ajoutent, et c'est une... disons, les textes nous disent que c'est un jour Nawi Ocelotl que les jaguars vont commencer à dévorer les vivants. Donc, c'est un jour de même signe que fut anéanti le premier état du monde. Alors, ce phénomène va se reproduire pour les autres soleils. Tous meurent le jour anniversaire de leur naissance, c'est-à-dire en fait le jour même de leur naissance. Alors, je crois que c'est très très important, puisque la leçon du mythe nous paraît très claire. Pour les Aztèques, la destruction est tout entière contenue dans la génération, au moment de la naissance. Les forces mises en jeu dans la création sont précisément celles qui conduisent tout organisme, toute vie à la ruine. Et ceci nous fait comprendre comment aussi on pouvait concevoir le sacrifice humain. J'étais un peu long, on va lire maintenant ce poème, Les Quatre Soleils, cette saga de la création du monde. On racontait, on disait qu'ainsi il y avait eu avant quatre vies et que celui-ci était le cinquième âge. Comme le savaient les vieux, en l'an un lapin, la terre et le ciel ont assis leur fondement. Et ils le savaient ainsi. Ils savaient que quand la terre et le ciel eurent assis leur fondement, il y avait eu quatre genres d'hommes, quatre genres de vies. Ils savaient aussi que chacune d'entre elles avait existé dans un soleil. Ils disaient que les premiers hommes, leur dieu les fit, les forgea avec la cendre. Ils attribuaient cela à Quetzalcoatl, dont le signe est sept vents. Il les fit, il les inventa. Le premier soleil qui prit ses assises, son signe était quatre eaux. On l'appela soleil d'eau. Il est arrivé avec lui que l'eau emmena tout. Les gens devinrent poissons. Le second soleil fut fondé alors. Son signe était quatre jaguars. On l'appelait soleil de jaguar. Il est arrivé avec lui que le ciel fut opprimé. Le soleil ne suivait plus sa route. Quand le soleil arrivait à midi, tout de suite il faisait nuit, et les jaguars dévoraient les gens quand il faisait sombre. C'est dans ce soleil que vivaient les géants. Les vieux disaient que les géants se saluaient ainsi. Ne tombez pas, car celui qui tombait, tombait pour toujours. Le troisième soleil fut fondé alors. Son signe était quatre pluies. On l'appelait soleil de pluie. Il est arrivé qu'avec lui, il a plu du feu. Ceux qui vivaient en lui ont été brûlés. Et avec lui, il a aussi plu du sable. Et on disait qu'avec lui, il a également plu des cailloux. Tous ceux que nous voyons, que la pierre de Tessandl a bouilli et qu'alors les rochers ont rougi. Son signe était quatre vents. Le quatrième soleil fut fondé alors. On l'appelait soleil de vent. Pendant sa durée, tout a été emporté par le vent. Ils sont tous devenus singes. Ils se sont éparpillés à travers les monts. Ils ont été y vivre, les hommes singes. Le cinquième soleil. Quatre mouvements sont signes. On l'appelle soleil de mouvement parce qu'il bouge, qu'il suit sa route. Et comme les vieux nous le disent, avec lui, il y aura du mouvement sur terre. Il y aura des famines et nous périrons ainsi. En l'an 13 roseaux, on dit qu'il est venu exister, qu'il est né, le soleil qui existe maintenant. C'est alors qu'il éclaira, qu'il fit l'aurore, le soleil de mouvement qui est là maintenant. Quatre mouvements est son signe. C'est lui le cinquième soleil qui a été fondé. Avec lui, il y aura du mouvement sur terre. Avec lui, il y aura des famines.
Le texte que nous venons de lire était tiré des annales de Cuiautitlan, plus exactement tiré du codex de Chimalpopoca, ce codex qui a été repris par Sahagún dans son collège de Tlatelolco. Ce qui vous a peut-être paru curieux à l'écoute de ce poème, c'est de remarquer que l'ordre des mondes, l'ordre des soleils, était différent de celui que j'avais indiqué tout à l'heure. Effectivement,
Ici, nous avons d'abord l'eau, ensuite le jaguar, la pluie et pour terminer, le vent avant d'arriver aux quatre mouvements. Eh bien, l'ordre qui se trouve sur le calendrier aztèque et dans toutes les autres annales, dans tous les autres textes et les autres poèmes est toujours ainsi. D'abord quatre jaguars, ensuite quatre vents, quatre pluies et pour terminer quatre eaux avant d'arriver aux quatre mouvements. Donc c'est l'ordre établi définitivement et que l'on conservera même si ces annales, même si ce codex de Chimalpopoca a inversé les différents mondes qui ont existé avant le cinquième soleil. Nous allons maintenant nous intéresser à la création du monde, plus exactement au sacrifice des dieux à Teotihuacan. Lors de la naissance du cinquième soleil, les dieux étaient assemblés à Teotihuacan et ils se sont sacrifiés pour permettre son apparition. Il y a tout d'abord un dieu qu'on appelle Nanahuatzin, celui qui est recouvert de pustules, et lui a eu le courage de se précipiter dans le Teotexcaï, c'est-à-dire la fournaise divine. Il va devenir ainsi le soleil. Avec lui, et pour lui dispenser le mouvement, enfin pour donner le mouvement à ce dernier soleil, les autres dieux vont se sacrifier à leur tour. Le soleil et la vie n'existent que par le sacrifice et ne peuvent être préservés que grâce au sacrifice. Ceci nous fait comprendre complètement la base philosophique du sacrifice humain chez l'Aztèque. Alors nous allons lire maintenant ce texte qui n'est pas un véritable poème, non, c'est une vraie saga, une prose qui nous permet ainsi de découvrir ces différents animaux, ces différents dieux qui vont se jeter dans ce brasier. Il y avait 4 ans que brûlait la fournaise sacrée là-bas à Teotihuacan. Et le dieu de la vie et le dieu du temps ont appelé celui qui est couvert de pustules, Nanahuatl, et lui ont dit « C'est toi qui dois maintenant porter le ciel et la terre. » Et le dieu devint triste. Et il dit ainsi « Que dites-vous? Il y a des dieux là-bas. Je suis au désespoir et malade. » On fit appel au dieu qui célèbre sa fête un jour 4 silex, c'est-à-dire à la lune. Et le dieu des pluies parle, et le dieu des 4 horizons du monde parle. Ce sont eux qui ont donné l'ordre. Le dieu, couvert de pustules, Nanahuatl, commence donc sa pénitence. Il prend ses épines d'agave, il prend sa branche de cyprès, il en perce ses jambes en sacrifice rituel, et la lune fait sa pénitence. Ensuite, il va prendre un bain, et la lune le suit. Son cyprès était en plume de quetzal et ses épines étaient en jade, et ce qu'il jetait au feu, c'était aussi des émeraudes. Quand il eut terminé les 4 jours de pénitence, le dieu aux pustules prend ses plumes et revêt les raies blanches des victimes. Il va bientôt se jeter au feu. Mais la lune est encore transie, elle crache à cause du froid. Voici que le dieu aux pustules part, il se jette au feu, il est tombé au milieu des flammes. Voici que la lune part, elle se jette au feu, elle n'est tombée que dans la cendre. Ils furent donc faits. Mais l'aigle et le jaguar arrivent. L'aigle se replie, se réduit et ose. Le jaguar est craintif et n'ose pas tomber. L'aigle a sauté et a brûlé. Le jaguar a sauté, mais il n'est arrivé qu'au bord du feu. L'aigle a noirci. Le jaguar n'est que taché de traces de feu. L'épervier arrive ensuite et dans le feu, il s'enfume. Arrive ensuite l'ours, il est simplement rossi. 3 d'entre eux n'ont pas su comment ils devaient se conduire, le jaguar, l'épervier et l'ours. Le dieu aux pustules est placé au sommet du ciel, et les dieux de la vie lui bâtissent sa demeure. Il le place sur un trône aux plumes de 1000 couleurs, il lui place sur le front un riche manteau de plumes et tatoue son visage. Et 4 jours ont passé et le soleil se tenait dans le ciel. La terre tout entière craignait sous les ombres qui s'éternisaient. Tous les dieux s'assemblent et forment leur concile. Qu'arrive-t-il? Pourquoi ne bouge-t-il pas? Le soleil était le dieu aux pustules devenu soleil du haut de son trône. L'épervier y va et demande.
Les dieux veulent savoir pourquoi tu ne bouges pas. Et le soleil répondit, sais-tu pourquoi? Je veux du sang de l'homme. Je veux qu'ils me donnent leurs enfants. Je veux qu'ils me donnent leur progéniture. Les dieux s'assemblèrent. Ils sont en délibération. Le dieu de l'aurore dit d'une voix sonore, je vais y aller. Je vais le percer d'une flèche. Pourquoi devrait-il se figer? Il essaya, il lança sa flèche sans atteindre son but. Et alors, il forma une flèche dont les plumes avaient la couleur de la lumière. Mais avec une flèche aux plumes rouges, couleur de flamme, il put enfin le percer. Voilà que marchent les neuf ciels. Voilà que le monde tourne. Et le dieu lui-même de l'aurore vint charrier sa glace. À nouveau les dieux s'assemblèrent. Le précieux du sud, Huitzilopochtli, celui qui domine les hommes et les femmes, fleurs riches en plumes et la jupe noire, avec celle à la jupe rouge, et tous les dieux meurent là-bas, à Teotihuacan. Quant à la lune, elle monte. Elle va à travers le firmament, elle qui n'était tombée que dans la cendre. Elle arrivait au bord du ciel quand le dieu des écumes lui brisa le visage avec un lapin, qu'il lui laissa là tout incrusté. Quand elle descendait au plus profond de l'abîme, ils vinrent la trouver, eux les dieux, au sort funeste, tous les allongés, et ceux qui tournent vite dans le tourbillon. Alors ils lui ont demandé, « Que cherches-tu? Où vas-tu ?» Et alors elle commença de cesser sa route. Elle était revêtue de haillons. Et quand le soleil s'arrêta, le soleil des quatre mouvements, c'était aussi l'heure où la nuit tombait.
Voilà, nous terminons ainsi cette première cassette. Nous reprendrons ensuite ces sagas afin d'étudier dans la cassette suivante d'abord la geste de Quetzalcoatl, une aventure extraordinaire, cette fuite de Quetzalcoatl de Tula et enfin sa transformation en l'étoile du matin Vénus.